fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Maë Burla.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 62e épisode d'Il fait quoi, le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci, on se retrouve dans notre beau studio pour entamer la 9e saison de l'émission. Et pour cette nouvelle saison, vous allez l'entendre, on a dû ajouter quelques chaises autour des micros. Nos auditeuristes les plus fidèles reconnaîtront peut-être certaines voix parce que cette année, on a décidé de réunir autour d'un même plateau plusieurs équipes de l'IFE afin de vous faire entendre quelques échos de ce qui se fabrique dans le bâtiment Buisson qui abrite l'Institut. Alors, il fait quoi ? Aujourd'hui, dans Il fait quoi, je l'ai annoncé, on se serre autour des micros. Il y a Marie-Laurie Sella et Léa Dousson de l'équipe Veille et Analyse. Bonjour.
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 À côté, il y a Aurélie Lusseau et Alexandra Gualard du réseau des lieux d'éducation associés à l'IFE. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Juste encore à ma droite, nous avons Sébastien Boudin, mon collègue de l'équipe Cadécole. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marie.
Et enfin, qui se partage le dernier micro, Edwige Courreau-Falquero et Alexandra Pêche, qui travaillent à l'IFE sur le projet Collège Plus. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez voir, on vous a préparé ce mois-ci une émission aux petits oignons et qui mijote depuis plusieurs mois avec cette envie collective partagée par plusieurs équipes de l'IFE de passer aux manettes de l'émission et de devenir chroniqueuse et chroniqueur. Marie-Laurie Sella, Léa Dusson, qu'est-ce qui vous a donné envie à toutes les deux de vous lancer dans un format radiophonique ?
Alors, on avait envie de s'intéresser au podcast et pourquoi pas d'en produire un pour permettre une accessibilité élargie de nos productions écrites qui sont et du revu, et du bref, et du veille. L'enjeu, c'était de proposer donc un autre format pour montrer les coulisses de nos réflexions et aller un petit peu plus loin aussi dans notre démarche de médiation scientifique. L'enjeu, voilà, c'est de décrypter les recherches et surtout de donner envie de lire nos productions écrites.
Et elles vont ressembler à quoi, ces chroniques, au fil des différents épisodes d'Il fait quoi ?
À chaque fois, on partira d'un édu revue, nos dossiers qui traitent d'un sujet éducatif assez profondément. Son autrice cherchera à montrer quelles disciplines de recherche, quelles enquêtes existent et peuvent être mobilisées pour comprendre ce sujet.
Donc si j'ai bien compris, on va pouvoir entendre toutes vos collègues aussi de l'équipe Veille Analyse, ou en tout cas certaines d'entre elles. On va en avoir à s'en mettre sous la dent.
Tout à fait.
Aurélie Lusseau et Alexandra Gualard, pour vous et votre équipe, elle naît d'où cette envie de se saisir du micro ?
Alors déjà, nous, on a toujours envie de partager plus ce qui se passe dans le réseau des Léa et sur les différents projets Léa. Et là, c'était une belle opportunité que vous nous avez offert, les cas d'école, pour partager encore plus et autrement aussi d'une autre façon.
Et elle va ressembler à quoi cette chronique, concrètement ?
Notre chronique, elle s'appuie sur la rencontre internationale qui se déroule tous les ans au mois de mai, ici à Lyon. Et on voudrait donner en fait à entendre ce qui s'y passe. Et les acteurs et les actrices de la communauté éducative et de la communauté de recherche se rencontrent, échangent, communiquent sur leurs travaux. Également, ils réfléchissent à une thématique qui est mise au travail. Et pour cette 15e édition, c'était la question de la preuve en éducation qui était mise au travail. Et voilà, on voulait choisir des instants clés à partager à toutes et tous.
Donc vous avez laissé traîner un enregistreur concrètement ?
Tout à fait. Pour cette saison, on va donner à entendre en fait, des chercheurs, des chercheuses, des enseignants, des enseignantes et pourquoi pas le conférencier lui-même.
On a hâte d'écouter tous ces petits montages. On va pouvoir se plonger les deux oreilles en avant dans cette journée de mai. Sébastien Boudin, toi, tu étais chroniqueur pour Il fait quoi déjà ? À quoi va ressembler la chronique de cas d'école dans cette nouvelle saison ?
Alors cette année, je vais essayer d'explorer comment utiliser l'audio, le sonore, comme outil pédagogique.
Elles vont ressembler à quoi tes chroniques ?
Alors, je vais essayer de trouver des acteurs, des actrices du monde de l'éducation, que ce soit du primaire, secondaire, voire même du supérieur, comment ils peuvent utiliser le podcast, par exemple, en classe ou dans leur salle de cours.
Donc, des petites interviews, et on a hâte d'entendre tout ça également. Et enfin, last but not least, Edwige Courreau-Falquero et Alexandra Pêche du projet Collège Plus. Passer par un format radiophonique, ça allait de soi pour vous ?
Oui, bien sûr. Passer par la radio, ça nous aide à faire connaître nos travaux et à sensibiliser, éveiller les consciences sur le fait qu'il n'y a pas que la salle de classe comme espace d'apprentissage. On essaye, à travers nos projets et nos travaux, de faire prendre conscience qu'autour de la salle de classe, il y a beaucoup d'espaces d'apprentissage et que dans un établissement scolaire, les élèves devraient pouvoir apprendre et se sentir bien pour apprendre dans tous les espaces, les cours de récréation, les couloirs, les CDI, etc. Et que pour apprendre, il faut se sentir bien dans une école de manière globale et systémique.
Quelle forme elle va prendre, cette chronique ?
Eh bien, pour chaque épisode, on interroge des acteurs, actrices de l'éducation, que ce soit des enseignants, des AED ou autres, qui viendront nous parler de la manière dont ils mobilisent différents espaces au sein d'un établissement pour enseigner. Que ce soit dans la salle de classe ou des espaces dont on parle un peu moins, les couloirs, la cour de récréation et d'autres.
Eh bien, on a hâte de se promener avec vous dans les espaces d'apprentissage. Les présentations étant faites, je vous propose que, sans attendre, on aille laisser traîner une oreille du côté de l'équipe Veille et Analyse. Marie-Louericella, c'est toi qui te saisis de ce micro ce mois-ci.
Et oui, je me suis lancée. Je vais vous parler de mon édu-revue consacrée à la comparaison internationale PISA et à sa mesure de la performance des systèmes éducatifs.
Mais alors, qu'est-ce que PISA et comment les recherches s'en saisissent ? Pourquoi t'y intéresser ? J'ai tant de questions, Marie.
Eh bien, ça tombe bien, Maë, parce que j'en ai fait une chronique. EduVox. PISA, c'est une enquête internationale portée par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors, elle est menée tous les 3 ans dans plus de 90 pays. Elle mesure les compétences des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en culture scientifique.
Mais alors, pourquoi tu as choisi de t'y intéresser à ce sujet ?
Parce que PISA, c'est un véritable marronnier médiatique. Les journalistes scrutent ses résultats dès leur sortie. Ils et elles mettent en avant le palmarès des pays participants, le niveau très moyen de la France ou encore la baisse généralisée des compétences en mathématiques des adolescents et des adolescentes. Mais les travaux de recherche, et notamment en sciences humaines et sociales, tendent à nuancer ces analyses journalistiques.
PISA, c'est quand même une enquête de grande qualité. Elle s'inscrit dans un prolongement d'enquête qui avait lieu précédemment. Elle en a tiré les enseignements des erreurs commises dans le passé. Après, la difficulté, c'est l'usage qui est fait de PISA.
L'analyse de Julien Grenet, qu'on vient d'entendre, qui est économiste de l'éducation, permet de déconstruire ce qui retient généralement notre attention.
Et notamment du classement, parce que je crois que c'est vraiment la partie la plus fragile dans l'enquête, c'est pas là où se trouve la richesse de PISA. Ouais. Le classement, il est marqué par une très grande incertitude, parce qu'on teste pas tous les élèves dans tous les pays, on teste un petit nombre d'élèves.
Bon, alors, si le palmarès PISA n'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette enquête selon les recherches ?
Eh bien, pour aller au-delà des idées reçues, je me suis plongée dans la lecture de travaux scientifiques pluridisciplinaires sur ce sujet. Et j'ai commencé par la sociologie. La sociologie, c'est sans doute la discipline qui s'est le plus intéressée à cette comparaison internationale. Pour les sociologues, PISA constitue une base de données riche pour comprendre les facteurs de réussite des élèves. Ils et elles prennent en compte l'organisation des systèmes éducatifs, les inégalités sociales ou encore celles liées au genre. Alors si les sociologues mobilisent les résultats PISA pour leurs recherches, ils et elles se sont aussi penchés sur ces méthodes et en ont montré certaines limites. Par exemple, certaines enquêtes sociologiques remettent en question la nature universelle des tests, dans le fond comme dans la forme. Elles démontrent notamment que ces biais peuvent provenir de la traduction des questionnaires à partir de l'anglais. Ça peut créer des imperfections langagières et entraver parfois la compréhension des questions.
Et du côté des sciences politiques, qu'est-ce qu'on fait de PISA ?
Alors, les chercheurs et les chercheuses de cette discipline ont abordé le sujet d'une façon un peu différente par rapport aux sociologues. Leurs travaux nous renseignent davantage sur les usages qui sont faits des résultats PISA dans plusieurs espaces, dans les arènes médiatiques, politiques ou institutionnelles. Les sciences politiques permettent de comprendre l'influence des résultats et des recommandations PISA dans l'orientation des politiques éducatives nationales. On observe par exemple que les pays concernés par l'enquête se dotent progressivement de leur propre système d'évaluation et d'indicateurs pour accompagner les décisions politiques nationales en matière éducative.
Au début de ta chronique, tu citais Julien Grenet, un économiste. Ça veut dire qu'il existe aussi des travaux en sciences économiques sur PISA.
Oui, tout à fait, Maë. Et elles permettent entre autres de répondre à une question centrale quand on s'intéresse à PISA. Pourquoi l'OCDE, qui est une organisation internationale dédiée au développement économique, a-t-elle mis en place une évaluation qui est consacrée à l'éducation ? En fait, dans les années 1960, un groupe d'économistes américains a démontré les liens entre un bon niveau d'éducation d'une population et la croissance économique d'un pays. L'éducation est alors considérée comme le vecteur du développement des compétences des individus pour répondre en particulier aux besoins du monde du travail. Et dans une perspective économique, elle est donc perçue comme créatrice de richesses nationales.
Les trois disciplines que tu as évoquées, donc la sociologie, les sciences politiques et les sciences économiques, sont les seuls domaines de recherche qui ont analysé PISA ?
Non, bien sûr. Alors, le choix de ces disciplines n'est pas exhaustif, mais il apporte déjà une vision panoramique de l'enquête et de ses enjeux. Moi, ça m'a permis de me rendre compte du décalage entre l'importance que l'on accorde au classement de PISA et la complexité des résultats et des enjeux de l'enquête. Les travaux en sociologie, en sciences politiques et en sciences économiques m'ont aidé à comprendre les usages possibles de ces données, à analyser les effets des recommandations sur les politiques nationales et enfin à saisir les visées de performance éducative qui sont portées par l'OCDE.
L'étude revue que tu as rédigée permet donc un regard croisé entre ces trois disciplines sur PISA. On peut la retrouver quelque part, cette étude revue ?
Oui, bien sûr. Alors si vous voulez aller plus loin dans le décryptage de l'enquête PISA, vous pouvez lire l'étude revue numéro 151 que vous retrouverez sur le site de l'équipe Veille et Analyse de l'IFE.
Et on vous mettra bien entendu un lien en description de ce podcast. Alors, chers collègues, vous connaissiez tous ce PISA ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Oui, en fait, on a quand même un bon nombre d'enseignantes autour de notre table. Et c'est agréable de faire passer l'enquête PISA à ses élèves ?
Que dire ? Pas vraiment.
Pas de commentaire ?
Non, sans commentaire.
Merci beaucoup, Marie-Laurie Sella, pour ce décryptage. Léa Dousson, si j'ai bien compris, c'est toi qui prendras le micro dans le prochain épisode de la chronique et du Vox ?
Oui, je vous raconterai un peu mon approche dans mon étude revue sur les transmissions culturelles familiales et inégalités scolaires.
Eh bien, j'ai hâte de t'écouter sur le sujet. Pour le moment, je me tourne désormais vers vous, Aurélie Lusseau et Alexandra Gualard, parce que vous nous avez préparé un reportage que vous voudriez nous faire écouter.
Et tout à fait. Et figurez-vous que j'ai appris en découvrant les coulisses de la radio que ça s'appelait un micro-trottoir.
Donc oui, comme on vous le disait en intro, nous on avait envie de vous partager un peu les sons de la rencontre internationale du réseau des LAIFE, et pour se mettre en jambes, on est allé en prendre quelques-uns.
On les a découpés, collés, parfaitement agencés.
On vous laisse avec les enseignantes,
les chercheuses et chercheurs
qu'on a pu rencontrer. On est le 25 mai 2025, c'est la rencontre internationale du réseau des LAIFE. Les sessions de communication du matin viennent de se terminer, c'est la pause. Nous nous retrouvons dans les couloirs de l'Institut français de l'éducation. On va tendre notre micro à des participants et participantes.
Je suis Emma, je suis enseignante. J'ai travaillé sur le Léa Jules Ferry autour des pratiques collaboratives et de la musique.
Céline, je suis enseignante dans une école à Villeurbanne et j'ai intégré le Léa Jules Ferry autour de la musique et de la coopération presque à ses débuts.
Pour moi, la preuve, c'est le signe que quelque chose avance et le signe par rapport à une question que l'on peut se poser, que ce soit dans nos pratiques pédagogiques ou dans la pratique entre adultes. Qu'est-ce qui fait qu'on avance sur une question et qu'est-ce qui fait qu'on peut dire on est parti d'un point A et on arrive à un point B ou C avec quel indicateur on arrive à avancer.
Au sein du Léa, donc dans l'équipe, quand on partage, on fait des retours d'expérience, on se rend bien compte qu'il y a plusieurs enfants qui sont identifiés comme des enfants perturbateurs et qui avec ce dispositif, par la pratique musicale, ont vraiment été capables de transformer un peu leur comportement. Donc pour nous, c'est vraiment le signe que ça fonctionne bien.
Bonjour, Carole. Je suis chercheuse co-responsable d'un Léa, le Léa Ring, réseau d'ingénierie, qui porte sur des questions de langue, de langage, de transmission de culture à l'école maternelle et élémentaire, dans des liens développés avec les familles d'élèves qui viennent en fait travailler dans les écoles.
Bonjour.
Olivier.
J'étais le chercheur dans le réseau école-collège Maine-et-Loire, un ancien Léa qui s'est terminé l'année dernière. On travaillait sur l'écriture philosophique.
Ce qui va faire preuve, par exemple, de l'efficacité d'un dispositif qu'on va mettre en place dans notre Léa, qui est une ingénierie coopérative, c'est-à-dire un travail dans lequel chercheurs, professeurs, on travaille tous ensemble. En fait, ce qui va compter dans la manière dont on atteste entre nous de l'efficacité de ce qu'on met en œuvre, c'est le fait qu'on va documenter collectivement, en fait, les pratiques mises en œuvre dans les classes ou bien les pratiques en lien avec ce que font les parents d'élèves, enfin, les familles d'élèves.
Je mettrai au cœur de la preuve la viabilité, en fait, de ce qui est produit.
La preuve, pour nous déjà, elle tient à la manière dont on documente ensemble en fait ce qui se passe. Et puis on va analyser tous ensemble, on va construire ensemble des preuves d'efficacité, de reconnaissance en fait d'efficacité de tel ou tel dispositif à tel ou tel moment. Parce qu'on aura développé ensemble une culture aussi de ce qu'on cherche à faire dans notre Léa.
Ça évoque déjà une rupture dans le rapport au savoir et remplacer finalement l'idée d'objectivité par celle d'objectivation.
La preuve du côté des familles, les familles qui viennent dans les écoles, en fait, elles nous montrent un savoir-faire, une pratique, en fait, dont elles sont familières. Et en fait, on va observer, nous, dans le Léa, quelque chose qui va être important, qui va avoir de la valeur pour ces personnes-là. On va partir de ce qu'elles nous disent pour construire le dispositif dans les classes. On va s'appuyer sur ça, en fait, pour produire des preuves de reconnaissance d'une certaine proximité entre ce qui nous est montré par les familles et ce que font les élèves.
Par exemple, quand on produit une séquence d'apprentissage pour faire écrire les élèves et voir si elle fonctionne, disons que quand on va chercher des conditions de possibilité d'écriture philosophique. Ces conditions, elles ne sont pas forcément universalisables. Elles sont valables dans un contexte particulier. Le chercheur, il a sa grille d'analyse de l'enquête. Les enseignants ont leur grille de lecture. Et l'idée, c'est que finalement, ce qu'on propose soit viable.
Je pense qu'il y a aussi, sur l'établissement d'un meilleur rapport, entre guillemets, entre l'école et les familles, il y a aussi quelque chose qui se joue. On a des collègues dans le Léa qui reconnaissent, en fait, dans la présence, dans une présence ou un rapport parental, on va dire, renforcé entre l'école et les familles, une preuve, en fait, de l'efficacité de ce qu'on mène. C'est-à-dire que, par exemple, les familles vont participer peut-être beaucoup plus à des choses, en fait, qui vont être mises en place dans l'école, ou bien vont aussi venir dans les classes et puis nous dire, ah ben là, en fait, ce qui a été présenté dans l'exposition, la conférence, c'est des choses que font les élèves. Là, on reconnaît quelque chose de notre pratique. Et donc, ça aussi, ça tient en fait à ce régime de preuves, entre guillemets, preuves culturelles qui sont mises en place dans le Léa.
Je fais partie d'un Léa qui s'appelle Léa Éducation au Futur, porté par le ministère de l'Agriculture. C'est la deuxième année.
Sylvie, enseignante en agronomie.
Preuve, collaboration, il y a quelque chose qui émerge. Collaborer, ça veut dire, pour moi, générer quelque chose qui n'était pas forcément attendu. Donc, dans les preuves, ça serait l'inattendu que j'aimerais mesurer. Des choses qui sont un peu spectaculaires, des témoignages bluffants. On ne s'attendait pas à un résultat et la collaboration a fait émerger quelque chose qui est en lien avec tous ces esprits qui se rencontrent.
On ferme les micros. Merci à vous.
Eh bien écoutez, c'était comme si on y était, les petits fours en moins.
Eh bien c'est bien la preuve que notre petit montage fonctionne.
Merci beaucoup pour ce premier épisode de la chronique L'Instant Léa Ife, Aurélie Lusseau et Alexandra Gualard.
On a hâte d'écouter la prochaine.
Vous savez déjà la thématique ?
Eh oui, on sait déjà. On va essayer de vous faire écouter des morceaux de la conférence de cette journée, conférence de Thibaut Kopp. Et en fait, lui, l'idée, ce qu'il nous a parlé autour de la co-construction de la preuve en recherche collaborative, entre données probantes et recherche collaborative, les intérêts et leurs limites.
Vous allez donc faire un petit montage à partir de la captation, c'est ça ?
C'est ça.
Encore pas mal de découpage et de collage en perspective. Mais en attendant, direction le terrain des sciences de l'éducation avec Sébastien Boudin pour la chronique de Cas d'école.
Et oui, parce que je vous propose d'aller écouter ce qui se passe dans une classe de CM2 de l'école Jacques Prévert à Clisson.
Les ondes de l'éducation.
Avec Radio France, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Ce slogan de Radio France, vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est celui de la sélection podcast jeunesse de Radio France. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui occupe une place de choix dans la classe de Natacha Gauthier à Clisson. C'est devenu un rituel pour les 25 élèves d'écouter chaque semaine les Odyssées de France Inter. Ces podcasts invitent les enfants de 7 à 12 ans à découvrir les aventures des grandes figures de l'histoire. Natacha Gauthier nous éclaire sur la raison pour laquelle elle utilise le podcast en classe.
Donc moi, j'arrivais dans la classe de CM2 après 6 années passées en maternelle et je souhaitais mettre un petit peu au centre de la classe la lecture sous différents, enfin la lecture ou à l'accès aux histoires, à l'imaginaire, sous différentes formes. Donc j'avais créé un rituel de lecture qui consistait le lundi à ce que je leur offre une lecture, donc je leur lise une histoire, le mardi qu'ils lisent eux-mêmes de manière silencieuse, le jeudi ils écoutaient des podcasts et le vendredi on était sur une lecture oralisée. Donc lorsque j'ai fait ma première semaine de rentrée, on a fait une écoute de podcast des Odyssées. Et ça rebondit dans la classe, c'est-à-dire qu'un tiers des enfants avaient déjà écouté ces Odyssées.
Pour Natacha Gauthier, l'écoute de podcast devient ainsi un outil pédagogique pour l'accès aux histoires et à l'imaginaire. Et il prend encore une nouvelle dimension lorsque arrive à ses oreilles l'existence d'un concours, l'école des Odyssées, avec leur grand Besançon.
Je reçois dans le cahier d'un enfant une petite feuille qui me dit qu'il y a un concours de podcast qui est lancé. Je dis, ah, mais pourquoi pas, c'est génial ça. On s'est inscrit au podcast un peu comme ça parce que c'était la première édition, c'est-à-dire ça n'a jamais, ça n'avait jamais été fait. Et l'objectif aussi posé de ce concours lancé par France Inter était d'ouvrir le plus dans le monde dans lequel les enfants vivent aussi aujourd'hui, leur permettre de s'ouvrir d'une autre manière aux histoires, mais aussi de les lancer dans de l'écriture, dans de la réalisation audio d'une histoire. Donc, il y avait les objectifs de France Inter et les nôtres de l'école élémentaire et notamment du cycle 3 se rencontraient entre la production d'écrits, aussi tout ce qui était langage oral, raconter une histoire de manière à l'oral, bah, ça suppose d'autres compétences aussi. Donc, en fait, ça venait en fait complètement rentrer dans nos objectifs de l'éducation nationale, mais aussi dans leur envie à eux de créer ce concours.
Et ensuite, il a fallu choisir avec les élèves l'héroïne de leur future histoire.
Ça a été un débat. Tout ça, ça rentre aussi dans les compétences. Qu'est-ce que j'avance comme argument? Pourquoi on choisit ce personnage? Qu'est-ce qu'on veut dire aussi sur ce personnage? Et puis, petit à petit, on est arrivé sur plutôt un personnage local. Donc, il y avait Olivier de Clisson, puisque nous avons château d'Olivier de Clisson à Clisson. Bon, sa vie était plutôt pas mal, mais sa femme, par contre, elle, avait dû se positionner par rapport à pas mal de choses. Donc, on a basculé, en fait, plutôt sur Jeanne de Clisson. On a voté. Donc, il fallait se mettre d'accord, voter, etc. On était tous partis pour ça. Et la meilleure source pour aller, parce qu'il fallait aller chercher effectivement les sources historiques, se renseigner sur ce personnage. Donc là, il y a tout un travail de recherche, tout un travail un petit peu d'historien, on va dire, où on cherche les sources, comment on fait. Donc, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire Internet. Et puis, on s'est aperçu que c'était une femme pirate du Moyen-Âge. En plus, il y avait un côté un petit peu original. Et puis, ensuite, je me suis dit, mais on est à Clisson, on a le château de Clisson, donc on va aller directement à la source. Donc, j'ai pris contact avec la médiatrice du château de Clisson, qui était passionnée par Jeanne de Belleville. Donc, je lui ai demandé de faire, si c'était possible, de faire une visite du château de Clisson, en axant en fait la visite autour de Jeanne de Belleville. Et elle nous a raconté plein de choses, l'histoire de Jeanne de Belleville, comment elle était devenue effectivement noble, bref. Et puis à la fin de cette visite, on comprend qu'au final, elle n'aurait pas forcément été pirate, que des historiens du XVIIe siècle se seraient emparés d'une phrase d'une archive pour en faire une pirate. Donc la question était de se poser, quand on est rentré de cette visite, est-ce qu'on garde ce personnage? Et puis finalement, oui, on s'est dit que c'était ça l'histoire aussi. Donc l'écriture a pu commencer à se faire aussi à partir de cette visite, avec les différents moments de la vie de Jeanne de Belleville, et en intégrant le fait que ce sont des historiens qui auraient dit qu'elle était pirate, mais finalement non, peut-être pas, on n'en sait rien.
À 12 ans, Jeanne de Belleville se marie avec Geoffroy VII de Châteaubriand.
Ben oui, c'est pratique. Se marier, ça permet de faire des alliances et d'agrandir son territoire. Alors pourquoi attendre? Sans compter qu'au Moyen-Âge, on ne fait pas de vieux os.
Jeanne devient seigneur. Elle hérite d'un très grand domaine qui s'étend jusqu'à la Bretagne.
Hé, alors, pousse.
Tu le savais, toi, qu'au Moyen-Âge, contrairement à ce qui se passera plus tard, les femmes avaient le même rôle que les hommes. Vas-y, Jeanne, raconte-lui tout ce que tu fais. Alors je gère mes biens, je défends le château, j'organise des banquets et je rends aussi la justice en cas de vol ou de meurtre.
Oh la classe!
Quoi la classe?
C'est nous la classe!
Ben oui, la classe de l'école Jacques Prévert à Clisson. Vous connaissez la capitale du Hellfest?
Oui, bon, je vous laisse. J'ai du pain sur la planche.
Alors, la demande initiale de France Inter était de rédiger un texte de 1500 mots et un son de 2 minutes sur un personnage historique. J'ai demandé à Natacha Gauthier de me présenter comment les élèves ont pleinement participé à la création de ce podcast.
Donc, le vendredi, je vous disais, c'était lecture oralisée, donc sur ce temps un petit peu ritualisé autour de la lecture. Et lorsqu'on s'est lancé dans ce projet, ce temps du vendredi, je leur ai demandé d'aller dans l'école et de chercher les sons, les bruitages qu'ils pouvaient faire sur le thème qu'on avait choisi, qui était donc le Moyen-Âge, pour faire en fait une banque de sons qu'on pourrait utiliser après pour le podcast. Donc, ils ont été d'une créativité extraordinaire. C'était vraiment très, très chouette. Donc, par exemple, pour faire le cheval qui galopait, j'ai une petite qui joue Jeanne, d'ailleurs, dans le podcast, qui a pris des échasses. Je ne sais pas si vous voyez les échasses en plastique. Et donc, qui courait avec les échasses.
Et moi, j'ai couru avec à côté d'elle avec mon portable. Ensuite, les bruits d'épée. On avait des anciennes balances de Robert Val. Donc, j'ai des élèves qui ont pris les plateaux qui sont en métal et qui les ont entrechoqués pour que ça fasse effectivement des bruits d'épée. Et au moment du montage, j'ai combiné leur enregistrement. Ça a été un gros, gros travail de va-et-vient entre l'écriture, l'enregistrement, les trouvailles de son. Il y a aussi eu des bruitages qui ont été trouvés un petit peu comme ça, de manière spontanée, parce que je les ai pris en APC, en activité pédagogique complémentaire, en petits groupes. Donc voilà, tout s'est construit un petit peu comme ça, en mêlant écriture, qu'on avait quand même fait un petit peu avant, enregistrement de notre écriture, réajustement, puis impro de bruitage parfois, parce que hop là, d'un coup, ça venait d'un coup comme ça, tout seul. Donc voilà, donc il y a eu un gros, gros travail comme ça de fait, en mélangeant les trois. On réécoutait, on soumettait à la classe, et puis on était d'accord, pas d'accord, on aimait pas, on enlevait ça. Voilà, donc il y avait toujours un gros, gros travail de discussion. Un petit groupe d'élèves qui écoutaient pas mal les podcasts et qui avaient pas mal d'humour. Donc elles ont compris tout de suite l'esprit, en fait, du podcast. Donc il y a eu beaucoup, d'ailleurs, le retour qu'on a eu, pourquoi on nous avait choisi, effectivement, c'est qu'il y avait beaucoup d'humour.
Donc, vous l'avez deviné, les élèves de la classe de Natacha Gauthier sont devenus les lauréats du premier concours de l'École des Odyssées. Mais si ce projet de podcast a pris une bonne partie de l'année scolaire, il a complètement permis d'intégrer les attendus pédagogiques du CM2.
Moi, je me suis aperçue que le passage par l'enregistrement, qui est donc effectivement le podcast, c'était très, très pédagogique et ça leur apprend énormément. Alors, ça a été d'une richesse incroyable parce que ça a fédéré aussi le groupe. Donc, il y a eu aussi une notion, ce que j'ai apprécié énormément dans ce projet, c'est le collectif, mais où chacun pouvait un peu trouver sa place. Donc, si on était plus enclin à écrire, on était plus enclin à écrire. Si on était, on trouvait plus créatif dans le bruitage, c'était plus les bruitages. Si on était plus créatif, plus à l'aise dans l'interprétation, c'était dans l'interprétation, c'est-à-dire dans la version concours, j'ai que 10 enfants qui ont participé. Les autres n'avaient pas envie, ne se sentaient pas prêts. Par contre, la version finale, ils étaient tous là. Ils avaient tous envie. Et un de mes élèves a dit, et ça, c'est la plus belle fierté et récompense pour une enseignante, c'est de dire, en début d'année, moi, je n'osais pas parler à haute voix ou je n'osais pas lire à haute voix. Et là, avec le podcast, j'ai appris, j'ai perdu de ma timidité et j'ai osé. Donc, en fait, en tant qu'enseignante, ça a permis à chacun de mes élèves de révéler une petite part d'eux-mêmes et en même temps de s'inscrire dans du collectif. Et ça, c'était vraiment une expérience incroyable pour ça, quoi. Alors, évidemment, oui, je peux que vous dire que le vécu à Paris, ça a été aussi extraordinaire de partager ça avec eux. C'était super.
Vous connaissez donc désormais l'aventure radiophonique vécue par les élèves de la classe de CM2 de l'école Jacques Prévert à Clisson. Merci beaucoup à Natacha Gauthier d'avoir partagé son expérience avec nous. Et vous pouvez écouter l'intégralité de l'histoire de Jeanne de Belleville, le premier podcast de l'École des Odyssées, sur le site de France Inter.
Et effectivement, on va se faire un plaisir d'aller écouter ça.
Oui, ça donne vraiment envie.
Et le prochain épisode ?
Alors, on plongera dans les archives radiophoniques, mais je vous en dis pas plus pour l'instant.
En tout cas, ça tombe bien que Sébastien, tu nous aies donné envie de retrouver les bancs de la salle de classe. Merci, parce que Edwige Couraud-Falquero et Alexandra Pêche, vous nous proposez d'y rester un peu plus longtemps, si j'ai bien compris.
Et oui, la salle de classe, c'est l'espace le plus souvent associé à l'éducation. Alors, on a décidé de commencer par là pour cette première chronique, espace d'apprentissage.
Et plus précisément, on va vous parler de classe flexible aujourd'hui.
Espace d'apprentissage.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de la classe flexible. C'est un terme qui revient de plus en plus ces dernières années, dans les blocs d'enseignants notamment. Souvent, quand on pense classe flexible, on a tout de suite certaines images en tête. Des tables en îlot, des tables hautes, ou encore les fameuses assises dynamiques en guise de chaise, comme les ballons, les tabourets culbutaux, ou pour les plus décontractés, des poufs. Pourtant, c'est en réalité assez réducteur de limiter la classe flexible à une simple question de mobilier et d'aménagement. La classe flexible, c'est d'abord et avant tout une approche pédagogique qui implique un changement de posture pour les élèves, mais aussi pour l'enseignant.
Et donc, on s'est demandé ce qui motivait certains enseignants à travailler en classe flexible et aussi ce que ça impliquait concrètement pour eux comme changement dans leur manière d'enseigner.
Pour ça, nous avons rencontré Caroline, qui est enseignante de SVT dans un collège près de Lyon. L'originalité de son témoignage, c'est qu'il concerne le second degré, ce qui est en fait assez rare quand on parle de classe flexible, car la plupart du temps, les récits d'enseignants sur le sujet concernent le premier degré. Il y a près de 10 ans, Caroline a mis en place dans son collège une salle de classe expérimentale qui s'apparente à une classe flexible. Elle nous raconte comment tout est parti d'une volonté de sa part de transformer sa manière d'enseigner.
En fait, en 2013, j'avais engagé un peu une évolution sur ma posture professionnelle et je sentais que je sortais de plus en plus des formats pédagogiques un peu, on va dire, contrôlés, rassurants, comme le cours magistral, le cours dialogué, voire, comme je suis enseignante de sciences, du TP hein, en groupe, mais avec des fiches en fait hyper cadrées. Et donc, je sentais qu'il y avait quand même une transition qui s'opérait vers l'envie de développer de nouvelles compétences.
À l'époque, une rénovation globale du collège est en préparation. Cela lui apparaît comme une opportunité pour engager une démarche de salle expérimentale en achetant du mobilier adapté. Avec l'appui de sa chef d'établissement, un petit collectif d'enseignants et d'enseignantes se met alors au travail et réfléchit à ce que pourrait être cette salle de classe expérimentale. Comment faut-il la concevoir et l'aménager pour qu'elle incite l'ensemble du personnel enseignant à tester de nouvelles postures et de nouvelles pratiques pédagogiques ? Il crée ainsi en 2015 la salle Éclat, Éclat pour École de l'avenir. C'est une salle laboratoire qui est disponible pour l'ensemble des enseignants du collège sur réservation.
Ça a pris quand même une bonne année de réflexion. Et donc, on a créé cette salle dans laquelle, en fait, on va avoir du mobilier qui est complètement mobile. Et donc, cette salle, elle est reconfigurable au gré des intentions pédagogiques. Donc, on va avoir des chaises à roulettes et puis des surfaces d'écriture qui sont disposées. Donc, on a un grand mur Velleda qui fait l'ensemble du mur, qui est notre espace de réflexion, de crash test des réflexions des uns et des autres. Donc, plusieurs tableaux blancs et puis des espaces où on peut s'asseoir, se mettre debout. En fait, dans cette salle, les élèves peuvent se lever sans demander l'autorisation. Et ils peuvent en fait travailler dans une sorte d'autonomie un peu contrôlée, j'irais même d'autonomie assumée par les élèves.
Là, on voit que pour les élèves, cet aménagement permet de diversifier les assises, les surfaces d'écriture et donc les espaces de travail. Et ceci amène plus de mobilité et incite à plus d'autonomie.
D'accord. Et du côté des enseignants, qu'est-ce que ça change pour eux dans leur pratique pédagogique d'enseigner dans une salle expérimentale comme celle qui est décrite par Caroline ?
Je n'ai pas, par exemple, 30 chaises qui peuvent s'aligner en direction du tableau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans cette salle, il faut penser une pédagogie différente. Et donc, ça fait peur parce que ça invite aussi un peu à lâcher prise quand les élèves vont se lever, quand ils vont faire des tâches un peu différentes. Donc, ça implique le fait qu'il faut leur faire confiance, qu'il ne faut plus être forcément dans le contrôle du savoir. Et ça peut inquiéter.
Pour un enseignant, à en juger par l'expérience de Caroline, travailler en classe flexible, ça veut dire évoluer d'un mode d'enseignement essentiellement transmissif à un mode plus collaboratif. Et comme elle le disait, c'est aussi de lâcher prise pour laisser davantage de place à une certaine autonomie des élèves dans leurs apprentissages.
Et ça, quelque chose me dit que ça ne doit pas être du goût de tous les enseignants, non ?
Et oui, car cette manière d'enseigner peut remettre en cause leur identité professionnelle. Si le modèle de classe en autobus demeure très majoritaire aujourd'hui, c'est en partie en raison d'une résistance d'une partie des enseignants à lâcher leur position centrale en permanence au cœur de l'attention des élèves. Le géographe Pascal Clerc, qui est spécialiste des espaces scolaires, insiste sur la persistance du modèle de la classe en autobus. Et pour lui, cela témoigne d'un refus, chez certains, voire chez beaucoup d'enseignants, de lâcher leur position de détenteur de connaissances. A contrario, les enseignants qui pratiquent la classe flexible indiquent qu'ils apprécient d'être davantage dans un rôle de passeur et d'accompagnement des élèves à apprendre par et pour soi-même. Et pour preuve de ce hiatus, dans le collège de Caroline, plusieurs enseignants utilisent cette salle régulièrement, là où d'autres ne l'utilisent jamais. Certains collègues ont testé la salle Éclat pendant un temps, puis sont revenus à une pratique classique de cours exclusivement magistral dans les salles de cours traditionnelles.
Bon, d'accord, on a parlé de ce que ça changeait pour les enseignants de travailler en classe flexible, mais pour les élèves, eux, qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, pour Caroline, un des apports majeurs de la classe flexible pour les élèves, c'est tout d'abord d'améliorer le climat de classe.
la transformation de l'espace va favoriser vraiment des interactions sociales plus apaisées. Une fois qu'en fait les élèves sont bien appropriés toutes ces règles, il y avait une baisse significative des actes d'autorité dans la classe. Alors les actes d'autorité, c'est tais-toi, parle moins fort, arrête de te lever, voilà.
Donc on voit que la transition vers la classe flexible apporte parfois un peu d'excitation chez les élèves et de déstabilisation, et un peu de tâtonnement chez l'enseignant. Mais après un temps, cela se régule et chacun apprend à travailler dans ce nouveau cadre, de manière moins frontale et plus collaborative. Et pour Caroline, un autre avantage majeur de la classe flexible, c'est d'aider les élèves en difficulté à s'exprimer et à prendre la parole.
Je me souviens très bien d'un élève qui avait des difficultés à parler correctement le français, à argumenter, et qui à un moment donné se lève un peu énervé, prend le stylo Velleda, se met sur le mur et dit « mais c'est ça que je suis en train de te dire », et qui fait un petit croquis. Et je me dis « mais waouh, en fait, le fait qu'il ait pu s'autoriser à le faire, j'ai trouvé ça assez génial ». Donc il y a eu des petites victoires assez intéressantes.
Donc pouvoir se lever, s'exprimer différemment, en écrivant sur un tableau par exemple, et en faisant un schéma, c'est une aide pour tous les élèves. Et c'est encore plus vrai pour les élèves qui ne sont pas à l'aise avec l'expression d'oral et avec le fait de parler devant toute la classe.
D'accord, c'est une aide pour tous les élèves, mais est-ce que ça veut dire que la classe flexible est la panacée pour tous les élèves ?
Eh bien, d'après Caroline, on peut dire que la classe flexible, c'est une bonne solution, mais pas tout le temps.
Des fois, je me rends compte qu'il y a des élèves qui sont pas d'accord, en fait, qui n'aiment pas y aller. Donc, je m'interroge sur le pourquoi. Et en fait, je commence à comprendre que oui, en fait, on les met vraiment en posture d'action, quoi. Ils sont actifs et que parfois, il y a quand même des élèves qui aiment bien aussi être en fond de salle et se dire qu'ils vont attendre passivement le cours et que le prof va diffuser son savoir et puis c'est très bien.
Et en effet, on peut comprendre que pour un élève qui a 6 à 7 heures de cours par jour, ça peut être fatigant de devoir être dans une posture active et autonome pendant toutes les heures de cours. C'est d'ailleurs pour ça que Caroline ne présente pas du tout la classe flexible comme une solution miracle. Elle exprime une vision plus nuancée.
Je pense qu'il faut quand même être vigilant à ne pas opposer les classes flexibles aux salles de classe beaucoup plus classiques, qui ont également parfois leurs avantages, et qu'il faut plutôt s'interroger sur la relation qu'on a entre notre espace de travail et notre dynamique d'apprentissage, et ce qu'on veut en fait promouvoir dans les apprentissages.
Donc en fin de compte, l'idée n'est pas ici de dire qu'il faudrait transformer toutes les salles de classe en classes flexibles, ni qu'il faudrait rejeter définitivement la salle en autobus. Il s'agit plutôt de dire qu'il faudrait pouvoir alterner en fonction des intentions pédagogiques. Et l'autre élément majeur, en conclusion, c'est qu'il ne suffit pas de mettre à disposition des enseignants du mobilier dit « innovant » pour les décider à adopter d'autres pratiques pédagogiques. Cela demande de la formation et un accompagnement sur une certaine durée.
Personnellement, je dirais quand même pas non à un petit ballon pour m'asseoir devant mon micro. Mais merci beaucoup Edwige et Alexandra pour cette première chronique sur les espaces d'apprentissage et donc la classe flexible.
Et la prochaine fois, vous nous emmenez en cours de récréation ?
Et non, dans le prochain épisode, nous vous parlerons des couloirs qui sont des grands oubliés dans l'aménagement des établissements scolaires, et oui.
Et pourtant, vous seriez surpris de comprendre tout ce qu'on peut y faire.
Mais tu, on garde un peu de suspense pour le prochain épisode d'Y fait quoi ? C'est comme ça qu'on fidélise des auditeuristes, croyez-moi, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Il fait quoi ? C'est terminé pour ce mois-ci. Merci à Adrien Reynaud à la régie. Vous pourrez nous retrouver en janvier, toujours aussi nombreuses autour des micros et bien déterminées à vous glisser à l'oreille des décryptages de recherche en éducation, des échos, des rencontres internationales, des Léa Ife, des projets pédagogiques autour de la radio et des espaces d'apprentissage. C'est le magazine qui vous fait feuilleter en son ce qu'on fabrique à l'Institut français de l'éducation. Vous pouvez en attendant retrouver l'intégralité des épisodes d'Y fait quoi et des podcasts de Cadécole sur le site ife.ens-lyon.fr/cadécole et sur toutes les plateformes de podcasts.
Des heures de podcasts de qualité à mettre dans vos oreilles.